C'est le vrai boss.
Jorion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous aviez prophétisé la crise des subprimes en 2008 et vous dites en 2016, on est foutu. D'ici deux ou trois générations, ce sera l'extinction de notre espèce. C'est pas léger ce que vous dites là.
Non, non. Moi, je ne m'avance que quand j'ai l'impression que j'ai pas mal de preuves quand même, comme j'avais fait pour les subprimes. Et ici, bon, y a quand même pas mal de physiciens, de climatologues, de chimistes, etc., qui nous disent que, à l'horizon de deux ou trois générations, ben, un risque véritable existe et que l'espèce humaine ne continue pas à survivre.
Et donc, crise de l'environnement, des finances, et vous dites même des robots.
Peut-être les robots, c'est un aspect, c'est ce qui nous, des choses qui nous échappent en ce moment, c'est la complexité. Nous sommes tellement plus nombreux, les interactions entre nous deviennent très très importantes, et surtout nous avons eu cette invention extraordinaire de l'ordinateur, mais nous lui confions de plus en plus, non pas simplement de réfléchir à notre place, mais aussi même de prendre des décisions à notre place. On parle de munitions intelligentes. Qu'est-ce que c'est des munitions intelligentes? Ce seront des machines qui prendront la décision eux-mêmes de tirer, et ça paraît extrêmement dangereux.
Alors, votre livre, c'est aussi une critique un peu féroce du capitalisme. Vous dites 1% des plus riches aux États-Unis ont pris 120% de la richesse. Finalement, la spéculation des harpagons, c'est aussi une arme de destruction.
Ben oui, parce que à partir du moment où il y a plus que 100% de la richesse qui est captée dans une année particulière par les plus riches, ça veut dire qu'ils vont encore prendre les 20% de différence sur des gens qui avaient déjà ça. Et on arrive à des chiffres catastrophiques comme aux États-Unis, où il y a 20% de la population qui n'a pas de richesse du tout, c'est-à-dire uniquement des dettes.
Alors vous dites, il faudrait redistribuer la richesse. Mais est-ce que ça, c'est pas une sorte d'utopie quand on connaît quand même l'égoïsme de l'espèce humaine?
Oui, d'autant plus que quand on a vu des révolutions, ça a été surtout de remplacer une élite dont on se débarrasse pour mettre une autre à la place. Il faudrait qu'on réfléchisse au fait que dans tous nos systèmes, même quand il y a des révolutions, il y a une machine, on remet en place une machine à concentrer la richesse, et puis c'est une question simplement de nombre d'années avant que ça produise des catastrophes. Parfois, on détruit la richesse et alors ça relance un peu la machine de manière massive dans des guerres mondiales, mais c'est quand même pas une solution.
Alors vous écrivez « Tout est marchandisé, tout est marchandisable ». Alors que faire? Il reste peu de temps. Vous dites « Il reste deux générations avant notre extinction ». Alors c'est pas beaucoup ça, deux générations?
Non, c'est les calculs faits par les physiciens. On nous dit déjà qu'une augmentation de 2 degrés, ça pourrait provoquer l'extinction humaine. Or maintenant, pour les prévisions pour 2100, il y a quelques années, on nous disait que ce serait 4 degrés, et le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 5,5 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, bon, le risque augmente tous les jours.
Mais l'humanité a connu des hausses et des baisses de température, le vivant est toujours là.
Oui, mais on n'a jamais vu des accélérations comme on voit maintenant. Il y a véritablement, on voit un processus se faire sur quelques années, sur quelques dizaines d'années qu'on a observé autrefois, mais sur parfois des millions d'années. Donc il y a quelque chose qui est en train d'aller très très mal.
Oui, alors Paul Jorion, que faire? Est-ce que notre espèce est finalement outillée pour empêcher son extinction, ou bien elle a commencé à faire son deuil?
Mais c'est-à-dire que les biologistes nous décrivent en disant que nous sommes des animaux colonisateurs, les êtres humains, nous sommes opportunistes et nous sommes sociaux. Alors, colonisateurs, ça veut dire que nous avons une tendance à envahir notre espace jusqu'à ce qu'on l'ait entièrement épuisé. Ça, c'est le problème majeur. Opportunistes, ça veut dire que nous pouvons développer des stratégies différentes pour obtenir des buts particuliers. Et c'est ça qui nous a permis de créer la science. Et la science nous a permis, en science appliquée, de faire de la technologie qui peut nous être très utile. Mais c'est surtout la dimension sociale qu'il faut mobiliser maintenant pour nous sauver.
Oui, mais alors que faire? Parce que là, est-ce que vous ne... C'est pas un peu vox clamatis in deserto? Vous ne prêchez pas dans le désert?
Mais non, je ne crois pas, parce que le livre se vend très très bien. Et j'avais un petit peu peur que les gens disent « Oui, je lis ça, et puis je suis désespéré ». Mais au contraire, et c'est un de vos collègues journalistes qui a dit « J'ai l'impression que votre livre est en train de créer un point de ralliement pour une certaine... » une résistance justement à ce qui pourrait se passer. Ça, c'est formidable.
Alors, on constate le politique n'a plus beaucoup de pouvoir. Comment est-ce qu'il peut reconquérir ce pouvoir?
Eh bien, il peut le reconquérir. J'ai l'impression que des événements récents, comme cette histoire de Panama Papers, c'est un peu ce qu'ils dessinent, c'est une reprise du pouvoir. On a fait une erreur fondamentale dans les années, à partir des années 70, c'est de dire qu'il faut gérer un État comme une entreprise. Et qu'est-ce qui disparaît? Et l'affaire Dexia est un bon exemple de ça. Ce qui disparaît, c'est ce qu'on appelait autrefois le sens de l'État pour les fonctionnaires, pour les ministres, etc. C'est-à-dire de s'identifier à l'intérêt général. Une fois qu'on dit l'État c'est comme une entreprise, alors c'est l'intérêt. très particulier qui prime. Mais là, on a vu les catastrophes. 2008, c'est vraiment la catastrophe causée par cet état d'esprit.
Comment vous êtes arrivé à cette conclusion, finalement, que l'espèce humaine n'en avait pas pour longtemps, ou n'en avait plus pour longtemps? Parce que toutes les espèces disparaissent un beau jour.
Et surtout que ce à quoi on fait confiance. On fait confiance à ce qu'on appelle la main visible d'Adam Smith. C'est-à-dire qu'en suivant notre intérêt égoïste, finalement, on fait marcher la machine. Mais ce dont on s'aperçoit par un raisonnement assez très simple, c'est que cette main invisible, elle, dans un cas d'une crise comme l'extinction, elle n'est d'aucune utilité. Et on a vu en 2008, on a vu que suivre son intérêt égoïste, c'est comme quand il y a le feu dans un cinéma. L'intérêt égoïste, à ce moment-là, ça ne contribue pas à la solution, ça contribue à aggraver le problème.
Oui. Paul Jorion, vous savez que pour les croyants, la fin du monde est souvent prévisible et qu'après, il y a le paradis. Donc, c'est peut-être une bonne chose pour eux.
Oui, certainement. Mais enfin, si on croit que tout va s'arranger un jour ou l'autre après qu'on soit mort, évidemment, ça démobilise un petit peu pour mettre le paquet maintenant. Oui, il faudrait mettre le paquet maintenant. Si on veut, nous avons parfois la chance, quand on atteint mon âge, d'avoir des arrière-petits-enfants et on peut imaginer leur sort. Mais les enfants, leurs enfants à eux, les petits-enfants de nos arrière-petits-enfants, nous ne pouvons pas nous représenter ça. Or, il faudrait. On ne peut pas simplement leur transmettre tous nos problèmes comme on le fait avec les déchets nucléaires, en disant ils sont tellement malins qu'ils arriveront à résoudre ça. Non, on ne peut pas. Nous avons une responsabilité quand même vis-à-vis de notre espèce, du genre humain, qui a quand même eu des réalisations extraordinaires.
Alors, vous attaquez le capitalisme. On voit au contraire aujourd'hui que le capitalisme, j'ai envie de dire, a envahi notre planète. Par quoi pourriez-vous le remplacer dans les 20 ou 30 ans qui viennent?
C'est possible, parce qu'il y en a quand même. Il n'y a pas que le communisme soviétique comme alternative. On peut imaginer des solutions, par exemple, que pour tout ce qui est de l'ordre, je dirais, des besoins élémentaires des gens, que ce qu'on organise la gratuité. On n'est pas obligé de fonctionner uniquement sur une logique de profit. Et le problème qu'on a maintenant, c'est quand on envisage, par exemple, de lutter contre les problèmes environnementaux, d'épuisement, etc., on essaye toujours de placer ça dans une logique de profit. Alors que la logique de profit, je ne suis pas sûr qu'elle nous permette de résoudre à un niveau collectif, au niveau global, les problèmes qui se posent.
Mais la gratuité, qui paierait cette gratuité? Est-ce que ce n'est pas super utopique ce que vous dites?
Mais non, parce que ce dont on se rend compte, c'est qu'on crée toujours une richesse extraordinaire et que le problème, c'est comme la question des 120% tout à l'heure, le problème, ce n'est pas du tout de créer de la richesse, on peut le faire et en plus, la terre autour de nous est d'une générosité extraordinaire. Il y a des choses que...
Pour longtemps, vous dites, attention.
Oui, mais c'est parce que nous nous détruisons, c'est parce que nous, dans les calculs comptables que nous faisons, nous ne comptons pas toute la destruction que nous produisons autour de nous. On appelle ça des externalités négatives, mais ça n'entre pas dans le calcul. Il faut commencer à introduire ça dans le calcul. Il y a une différence entre faire quelque chose qu'on ne pourra pas reproduire après parce qu'on a détruit la ressource et quelque chose qui est renouvelable, durable, etc.
Paul Jorion, dernière question. Finalement, vous y croyez à la survie de l'espèce ou vous êtes tellement pessimiste aujourd'hui que vous dites c'est foutu?
Non, j'hésite un petit peu, ça dépend un petit peu de mon humeur, mais je crois quand même que si on mobilise maintenant toutes nos ressources, parce qu'on a quand même, nous avons une différence quand même avec les dinosaures, c'est que nous avons une représentation, je dirais, complète et précise de ce qu'il faudrait faire. C'est juste une question d'avoir la volonté de mettre en application ce qu'il faudrait faire. On a un avantage sur les dinosaures, je crois que c'est le moment vraiment de l'utiliser.
Le dernier qui s'en va éteint la lumière, Paul Jorion, merci de votre visite.
Merci.
Belle RTL soir. Pascal.